Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Retour ce lundi sur des propos d'Emmanuel Macron qui ont fait ressurgir le passé colonial de la France, raviver la question des stigmates de cette période de l'histoire et puis profondément diviser d'un côté ceux qui pensent qu'il est temps d'affronter le passé, de l'autre ceux qui refusent toute forme de repentance. Emmanuel Macron qui donnait donc il y a quelques jours une interview à une télévision algérienne.
La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Des propos qui ont immédiatement fait réagir à l'extrême droite et à droite. François Fillon.
Hier en Algérie, M. Macron a osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente, est indigne d'un candidat à la présidence de la République.
Face aux attaques politiques, face à la colère de certains Français, Emmanuel Macron a fini par reconnaître, c'était ce week-end à Toulon, que ses propos avaient pu blesser, sans toutefois les renier. Le candidat d'En Marche insiste, la France doit regarder en face son passé complexe pour avancer.
Je ne me suis pas repenti. J'ai reconnu chacune et chacun dans la complexité de ses mémoires. Mais en même temps, je sais que j'ai blessé. J'ai reçu des lettres bouleversantes de femmes et d'hommes qui ont vécu là-bas et qui ont eu le sentiment qu'on les avait trahis. Alors je suis désolé de vous avoir blessé, pour certains de vous avoir offensé. Notre pays, il a ses divisions qui sont irrationnelles. La responsabilité, quelqu'un qui prétend aux plus hautes fonctions, c'est d'essayer de les faire aller au-delà.
Alors, colonisation, les politiques français doivent-ils s'emparer du bilan? La France y est-elle prête? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, deux historiens. Sylvie Thénault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, dont l'histoire de l'Algérie à la période coloniale, qui est paru aux éditions La Découverte, et encore Idées reçues sur la guerre d'indépendance algérienne, aux éditions du Cavalier Bleu. En face avec nous dans ce studio, Jacques Frémaux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne, auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'histoire impériale et coloniale, dont Empires coloniaux, au pluriel, une histoire monde, parue au CNRS édition, et puis dernière publication dans la même maison d'édition, La conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Abdelkader. Alors, avant de vous demander à tous les deux votre réaction à ces propos, je voulais d'abord votre regard d'historien, d'historienne sur ces propos, sur leurs conséquences. Est-ce que ces propos sont vraiment inédits, Sylvie Thénault?
Non, ils sont pas inédits. Pour moi qui travaille sur ces questions depuis moins longtemps que Jacques Frémaux, mais quand même depuis maintenant presque 20 ans, c'est pas un débat nouveau. La question de la qualification de la colonisation comme un crime contre l'humanité, elle a été beaucoup maniée en Algérie par le pouvoir qui instrumentalise l'histoire à ses fins. Et en France, le débat est moins fort, mais disons que dans des milieux qui réclament la reconnaissance de certains massacres, la question a pu faire débat. Hein, donc c'est pas nouveau pour les gens qui sont spécialistes de toutes ces questions depuis longtemps.
Alors, on peut rappeler peut-être quelques mots, par exemple Nicolas Sarkozy, qui avait parlé en 2007, ça fait déjà 10 ans, d'un système colonial injuste par nature, de fautes, de crimes impardonnables. Il y avait ensuite eu François Hollande en 2012, qui avait reconnu les souffrances des Algériens. Jacques Frémaux, qu'est-ce qui rend les propos de Macron différents cette fois-ci? C'est le terme utilisé? C'est le mot « crime contre l'humanité » ?
Je ne sais même pas si c'est le mot crime contre l'humanité, parce qu'il faut quand même penser, Sylvie Thénault le disait, que ces accusations et ces attaques tout à fait justifiées d'ailleurs contre la colonisation datent d'hommes comme Aimé Césaire, par exemple. Aimé Césaire qui disait que la colonisation était coupable du plus grand tas de cadavres de l'histoire et que l'Europe bourgeoise, c'était la même chose que l'Europe nazie. Hein. Donc ça n'est pas du tout nouveau. Ce qui est sans doute différent, en effet, c'est que Emmanuel Macron lance cette formule dans une interview sans avoir du tout préparé sa présentation et sans donner non plus de la moindre explication
sur un éventuel cheminement, vous voulez dire, ou sur des conséquences.
C'est une affirmation qui tombe un peu comme un aérolithe dans une grande interview sur les relations franco-algériennes. hein, et qui effectivement peut donner l'impression et donne l'impression d'être quelque chose qui n'est pas préparé et qui n'est pas justifié, qui n'est pas argumenté.
Vous avez la même analyse, Sylvie Thénault?
Ben, quand on l'écoute et plus encore quand on le voit à l'image, on a l'impression qu'effectivement l'expression lui échappe. Mais je trouve ça extrêmement révélateur, significatif et intéressant que l'expression lui échappe, parce que en fait, à mon sens, ça veut dire que la question de savoir si c'est un crime contre l'humanité au sens juridique, c'est pas la bonne question. Je pense que ce qui lui a échappé, c'est qu'il a voulu dire à quel point c'était un crime grave, et c'est comme ça qu'il a trouvé le fait de l'exprimer. Et donc c'est significatif de ce qui est devenu cette qualification du crime contre l'humanité, qui finalement n'est pas qu'une notion juridique,
et aussi une notion. Est-ce qu'il faut une notion morale?
Une notion morale, une notion politique, c'est aussi symbolique. Si on dit à des victimes qu'elles ont souffert d'un crime contre l'humanité, on leur explique qu'elles ont souffert d'un des crimes les plus graves qui puissent être commis.
Alors en cela, vous diriez qu'il a eu raison de prononcer ces mots, que le débat était nécessaire?
Je trouve toujours les débats nécessaires et très honnêtement, c'est le propre même de la démocratie, on peut s'en féliciter. A-t-il eu raison? J'ai pas honnêtement d'avis particulier là-dessus. Je trouve que c'est révélateur, peut-être aussi d'une génération quand même, où pendant longtemps c'était la période de Vichy qui était la période de l'histoire de France qu'il fallait affronter. Maintenant, on a eu un déplacement très net vers la guerre d'Algérie et puis la colonisation. Il y a aussi l'esclavage qui a fait débat, mais il y a quand même un cheminement comme ça sur les thèmes qui font débat, et Vichy ne fait plus ou beaucoup moins débat, et au contraire la colonisation a émergé.
Vous êtes d'accord, Jacques Frémaux, fait que Emmanuel Macron, plus jeune, un moins de 40 ans, donc évidemment pas la même génération que les hommes politiques qu'on connaît, prononce ces mots, ça veut dire des choses intéressantes?
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est en effet assez révélateur, sans doute d'une certaine forme de libération, de libération de la parole, hein, pourrait-on dire, par rapport à ces événements qui pendant longtemps ont été qu'on était plutôt occultés, en fait, hein. L'idée c'était qu'il valait mieux éviter d'en parler pour éviter le déchirement, la guerre civile, les chocs entre deux parties de l'opinion française.
Et alors, est-ce que vous, je vous pose la même question, même si vous allez peut-être me répondre en me disant c'est pas à l'historien de répondre à la question, mais est-ce qu'il a eu raison de poser cette question ou d'utiliser ces mots?
Je pense qu'il aurait été préférable de parler des responsabilités de la France dans le phénomène colonial. Car c'est quand même cette question de la responsabilité, de la reconnaissance de la responsabilité, qui est sans doute le meilleur chemin pour amener une réflexion et un rapprochement. Voilà.
Alors pourquoi plus responsabilité que qualification de crime contre l'humanité? Qu'est-ce qui vous semble plus intéressant dans cette notion-là?
Je pense qu'un homme politique est plus dans le champ des responsabilités, parce que non seulement il doit évidemment voir le passé, mais il doit aussi préparer l'avenir. Hein, c'est plutôt comme ça.
Et là, c'est plus intéressant que ce qu'ont dit Nicolas Sarkozy et François Hollande, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ça va plus loin dans l'endossement d'une responsabilité?
Je pense que ça ne peut aller plus loin que ce qui a manqué, je pense, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le discours d'Emmanuel Macron, c'était de mettre ce phénomène en situation, d'argumenter, d'expliquer pourquoi il utilisait cette expression. Quelles étaient les souffrances qu'on entendait derrière, c'est-à-dire les souffrances de la conquête, les souffrances de l'oppression, les souffrances de l'exploitation. Et je crois que c'est comme ça qu'on se fait comprendre. Il ne s'agit pas de stigmatiser. Il s'agit d'argumenter et d'expliquer, voilà.
Il y a aussi, je trouve, une grande différence avec les propos de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. C'est que là, on n'a pas affaire à des propos qui s'inscrivent dans le cadre de relations bilatérales. Quand des chefs d'État parlent de l'histoire, on peut toujours imaginer qu'en fait, c'est un levier qu'ils actionnent dans le cadre de relations bilatérales. Et dans le cas franco-algérien, c'est toujours très net. C'est-à-dire que quand les périodes sont à la coopération et à l'embellissement des relations, on met sous le tapis les questions qui fâchent et puis les déclarations de part et d'autre vont dans le sens d'apaisement, donc on peut avoir des excuses, etc. Et puis dans les moments où on a un raidissement, au contraire, le passé est ressorti de façon plutôt revancharde. Et là, c'est pas un chef d'État qui s'exprime. Et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi il a dit ça et qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'un chef d'État, c'est facile. On dit, bah oui, mais en ce moment, il essaye de signer un accord
donc,
de coopération.
Donc la portée des mots est finalement amoindrie. Vous, vous auriez préféré une sorte de grand discours après une rencontre avec un des responsables algériens et là une parole peut-être plus officielle, c'est ce que vous nous dites ?
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile d'analyser une parole quand elle est officielle. Et savoir pourquoi la personne l'a dit, pourquoi un chef d'État, par exemple, dit le système colonial est injuste. Si on comprend que la France veut garder un pied au Maghreb, veut favoriser l'installation d'une usine de tel ou tel constructeur automobile à Oran, par exemple, on voit tout de suite l'instrumentalisation de l'histoire. Donc, on se pose pas la question de la sincérité ni de ce que ça signifie. Alors que là, c'est tellement spontané et on voit pas tellement l'intérêt. Parce que finalement...
Alors certains ont dit que l'intérêt était électoraliste.
Alors, on peut imaginer qu'effectivement, en France en tout cas, il y a une frange de la gauche, mais alors qui est beaucoup plus à gauche qu'Emmanuel Macron, pour qui l'anticolonialisme reste quelque chose de très fort. Et que là, il va peut-être gagner des voix. Mais je suis pas sûre qu'en revanche, il en perde pas beaucoup de l'autre côté. Donc le calcul électoral est un peu compliqué. Là où il y a quelque chose d'intéressant aussi sur la question générationnelle et sur cette référence à la colonisation et à l'Algérie, c'est que je crois qu'avec la génération de Macron, on est dans une génération qui est entrée dans la socialisation politique à un moment où l'antiracisme était quelque chose de très fort, hein, les années 80-90. Et dans l'antiracisme, la référence au passé colonial a toujours été très forte. Si vous prenez des mouvements comme SOS Racisme, on parlait de la guerre d'Algérie, de la torture en Algérie, de façon très forte, en se disant que c'était un discours qui avait une valeur pédagogique dans le combat antiraciste. Et donc c'est peut-être le résultat de cette socialisation-là, dans ce contexte-là.
Alors avant d'en venir à ce que vous disiez, peut-être ces voix qui ont été perdues, on écoutera Marine Le Pen dans un instant, peut-être Jacques Frémaux, sur ce que vient de nous dire Sylvie Thénault, sur le fait que c'était effectivement un discours pas du tout officiel, mais plutôt une interview comme ça, donnée à une télévision totalement inattendue. Vous êtes d'accord, ça amoindrit la portée du message ?
Ça l'amoindrit en un certain sens, parce qu'il faut bien reconnaître que ce message a quand même été très écouté et a eu un retentissement considérable. Donc, s'il s'agissait de se faire entendre et de se faire, sinon de se faire écouter, là, le résultat était extrêmement, extrêmement positif.
Et il y a derrière eu un sondage de l'IFOP, je crois, qui dit que 51% des Français interrogés sont plutôt favorables à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors, on va écouter tout de suite Marine Le Pen qui réagissait. C'était sur Facebook lors d'une discussion en direct au propos d'Emmanuel Macron.
Y a-t-il quelque chose de plus grave quand on veut être président de la République que d'aller à l'étranger pour accuser le pays que l'on veut diriger de crimes contre l'humanité? Je crois que au-dessus de ça, il n'y a rien.
Alors Jacques Frémaux, on le voit, hein, la réaction est très virulente. Elle suit celle de François Fillon qu'on a entendu tout à l'heure. Pourquoi la colonisation est-elle encore un sujet de crispation si fort en France?
Parce que c'est un élément de clivage très important, je pense, entre la droite et la gauche, et c'est un des mots d'ordre qui permet de rassembler justement son électorat, ou en tout cas le noyau dur de son électorat.
Mais alors, c'est un sujet de crispation si fort, structurant de la droite et de la gauche pour les dirigeants politiques, ou c'est encore très vrai au sein de la population française?
C'est encore vrai, je pense, au sein de la population française, parce que finalement, surtout, je pense, dans les noyaux durs, parce que beaucoup ont fait leur éducation politique à travers, justement, les uns, le combat anticolonialiste, et les autres, au contraire, la défense de l'Algérie française, d'ailleurs, plus que de la colonisation en général. Hein. Et ça, je crois que c'est quand même extrêmement... Ça reste très fort.
Sylvie Thénault, dans vos recherches, vous disiez, ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez sur le sujet. Est-ce que vous avez constaté une évolution dans le rapport à ce sujet ?
L'évolution, elle est surtout dans les sujets sur lesquels porte l'intérêt, je dirais, médiatique et public. J'ai l'impression que l'attention s'est déportée de la période de la guerre d'indépendance, 54-62, pour aller plus profondément sur l'ensemble de la période coloniale. La question après, c'est pourquoi l'Algérie, finalement, et pourquoi pas l'Afrique, Madagascar, le Vietnam. Et là, je crois qu'il y a un élément qui est quand même la particularité de cette colonie algérienne, dans laquelle il y avait quand même près d'un million de Français qui vivaient au moment de l'indépendance et dont la majorité est venue vivre en métropole. Donc, il y a cette particularité-là. Il y a le fait aussi que vous avez eu tous les anciens combattants, tous les soldats qui ont été envoyés, qui composent aujourd'hui dans la société française, même si l'âge aidant, il commence à disparaître, un groupe important. Vous avez les harkis, vous avez les immigrés. On est dans une société qui est quand même d'abord concernée par l'Algérie, quantitativement même, par rapport à d'autres anciennes colonies.
Et est-ce que le sujet aujourd'hui est encore important? Est-ce qu'on attend dans ces communautés aujourd'hui un positionnement, des excuses, une repentance? Est-ce que ça existe?
C'est difficile à dire, parce que qu'est-ce qu'on aurait pour le mesurer finalement? On aurait éventuellement que les voix d'éventuelles associations, avec la question de savoir ce qu'elles représentent. Donc moi, je suis souvent assez prudente sur ces questions, y compris quand on parle de réactions un peu vives dans les classes. Il y a toujours les deux, trois qui s'expriment et puis le reste de la classe qui est un peu dans l'indifférence. Ça, on le voit par exemple dans des gens qui travaillent sur la mémoire des pieds noirs, où on a souvent l'impression d'une communauté soudée dans la nostalgie. En réalité, maintenant où on est à la génération des enfants ou des petits-enfants, seule une toute petite minorité est très active, et l'immense majorité des descendants de pieds noirs est complètement fondue, je dirais, dans la société française et n'a pas.
Donc pour vous, c'est pas structurant, c'est pas un discours nécessaire aujourd'hui. Benjamin Stora, qui est l'un de vos collègues, lui disait, en réaction à ses propos d'Emmanuel Macron, que pour lui, c'était vraiment un sujet dont les politiques devaient s'emparer. Est-ce que vous avez le même avis, Jacques Frémaux?
Qui doivent s'emparer? Je vous dirais que, alors là, je vais peut-être être un peu iconoclaste, si on veut vraiment s'intéresser pour un homme politique aujourd'hui au problème de la décolonisation, il y a par exemple la question du référendum de Nouvelle-Calédonie. Oui. En 2008, il y a les tensions aux Antilles, il y a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes tout à fait actuels. Et donc je pense que...
Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que c'est un problème actuel pour, y compris, les nouvelles générations?
Je pense que le problème actuellement, je pense pas être démenti en disant ça, c'est qu'il y a une très forte demande, chez toutes les personnes qui ont pu de loin ou de près toucher à cette question de l'Algérie, une très forte demande de connaître l'histoire, au fond, de l'Algérie. Et ça peut passer par la généalogie, ça peut passer par l'histoire régionale.
Donc c'est plus un discours historique, une envie d'histoire qu'une envie de politique.
Pour dire les choses un peu bêtement, c'est un retour aux racines, en quelque sorte. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez fort.
Moi, je pense que les politiques doivent s'en emparer, parce que toute nation a intérêt au débat sur son passé. Ça fait partie de la démocratie, de l'éducation à la citoyenneté, de connaître le passé de la société dans laquelle on vit. Après, savoir si ça répondra à une demande sociale, j'en suis pas certaine. Voilà.
Et est-ce que cette demande sociale, elle existe du côté algérien? Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse algérienne, alors on n'a plus que deux minutes pour répondre, mais est-ce qu'elle existe, cette demande sociale?
C'est encore plus compliqué de répondre qu'en France, parce que vous n'êtes pas dans un système où quand même la liberté politique est telle que vous puissiez recueillir des indicateurs tels que le nombre d'associations demandant telle ou telle chose. Pour répondre juste avec une petite expérience, quand on va en Algérie aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'une société qui est marquée par son présent et par la décennie noire, sachant que l'immense majorité de la population algérienne d'aujourd'hui n'a pas connu l'époque coloniale. Et le pouvoir algérien a tellement usé de cette période-là pour se légitimer qu'on rencontre quand même des discours un peu de lassitude.
Jacques Frémaux.
Oui, je suis d'accord, mais j'ai constaté quand même, puisque hier j'étais au Maghreb des Libres, qu'on voit apparaître des bandes dessinées, justement, qui racontent l'histoire de la colonisation. Et donc, il y a peut-être aussi là une forme de langage qui va un peu irriguer la société algérienne sur ces
sujets.
Donc
on s'interroge pas de la même manière en se demandant si les termes sont les bons, mais on commence à s'y intéresser, à pouvoir le dire.
Oui, et puis peut-être que on finit par penser que la part des Français, c'est peut-être pas l'essentiel aussi, qu'il y a autre chose.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce débat. Merci donc à Jacques Frémaux, historien, professeur à l'université Paris-Sorbonne, auteur de La conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Abdelkader chez CNRS Éditions. Merci à Sylvie Thénault, historienne,
Fontaine, directrice de recherche au CNRS, auteur de l'histoire de l'Algérie à la période coloniale aux éditions La Découverte. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. C'est la fin des RFI Soir. On se retrouve demain pour un nouveau débat.